Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous arrivons à l'étude numéro 9 et le titre sera « À la droite du Père ». À la droite du Père. Nous voici au tout dernier acte de la vie de Jésus-Christ sur la terre, son ascension au ciel, à la droite du Père. Il pourrait bien s'agir du plus incompréhensible de tous les événements marquants de son parcours ici-bas. D'abord, bien sûr, elle est incompréhensible pour les disciples qui en sont témoins. C'est peut-être le plus inattendu, visuellement parlant, de tous les miracles auxquels ils ont directement assisté. Dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11, il est écrit que, après avoir dit cela, il, Jésus, s'éleva dans les airs pendant qu'ils regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Nous ignorons à quoi précisément pensent les disciples en fixant les nuages, mais les deux anges doivent les réprimander doucement. Ils leur ont dit « Reprenez vos esprits, messieurs. Jésus est parti et il reviendra. Mais d'ici là, il y a du pain sur la planche. » Allez, levez-vous, au travail, alors dépêchez-vous. De toute évidence, les apôtres commencent à s'interroger sur la signification de l'ascension dès le moment où elle se produit. Donc cet événement est tout aussi incompréhensible pour nous. La question n'est pas tellement qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi est-ce arrivé? Quelle différence cela fait-il pour notre âme et notre manière de vivre? Certainement, il est logique de penser qu'à la descente de l'incarnation doit correspondre une remontée. Mais son rôle pour notre salut où notre façon de vivre n'est pas évident à première vue. Pourtant, l'ascension fait une énorme différence lorsque on la comprend bien. Elle devient une ressource importante et irremplaçable pour notre existence ici-bas. Une ressource. On peut dire qu'aucune autre religion ou philosophie de vie n'offre. Examinons donc ce que les apôtres ont fini par apprendre à ce sujet et qu'ils ont consigné à divers endroits du Nouveau Testament en nous penchant d'abord sur la signification théologique, ensuite sur son impact pratique. Donc, qu'est-ce que l'ascension? Ce n'est pas simplement le retour de Jésus au ciel, c'est un nouveau couronnement pour lui qui inaugure une nouvelle relation avec nous et avec le monde entier. Commençons par réfléchir à ce que l'ascension n'est pas. Ce n'est pas simplement Jésus qui quitte la surface de la terre. Ce n'est pas tant qu'il monte vers le ciel. Il va au ciel, bien entendu. Peut-être vous rappelez-vous le dirigeant soviétique, il y a longtemps de cela, qui a déclaré en 1961 que son cosmonaute était monté vers le ciel et n'y avait pas vu ni rencontré Dieu. Par conséquent, Dieu ne devait pas exister. Voyez-vous, dans cette façon de voir, l'ascension est fondamentalement un changement d'altitude. Christ et le Père se retrouvent quelque part dans l'espace. La Sainte Bible parle effectivement du ciel dans le sens de l'étendue où se trouvent le soleil, la lune et les étoiles, comme il est dit au psaume 19, verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue, elle révèle l'œuvre de ses mains. Mais Jésus n'est pas allé vers le ciel des étoiles et des planètes, il est allé au ciel comme un, on peut dire, un C majuscule, pourrait-on dire. Cela n'a rien à voir avec une orbite, pas du tout. De fait, il faut probablement s'attarder sur le verbe « s'élever ». Nous savons que cela signifie « aller vers le haut », comme dans le cas d'un avion. Mais nous l'employons habituellement avec parcimonie lorsque nous l'appliquons à des personnes. Par exemple, nous pourrions dire « il s'est élevé sur l'échelle ». Mais nous dirons plutôt qu'il a grimpé sur l'échelle. En revanche, nous l'employons plus facilement pour une personne qui s'élèverait sur l'échelle sociale. Il s'agit bien plus que d'un changement de niveau physique. Cela implique une nouvelle relation par rapport aux autres, de nouveaux pouvoirs et de nouveaux privilèges pour l'exercice de l'autorité. Les marches et le siège surélevés d'un trône ou montent du reste sur le trône, tout cela symbolise cela. Voyez-vous, à Londres, à l'abbaye de Westminster, la chaise du roi Édouard est exposée. C'est le siège utilisé pour le couronnement des rois et reines de l'Angleterre depuis 800 ans. Si vous montiez littéralement les marches et vous asseyez sur ce trône, vous n'exerceriez pas automatiquement la fonction royale. Il est aussi probable qu'on vous expulserait de l'abbaye de Westminster, soit dit en passant. Ce que je veux dire, c'est que l'ascension au trône n'est pas définie par une élévation physique, même si cela se produit durant la cérémonie du couronnement, mais plutôt par un changement dans le statut juridique et la relation avec les autres. Vous rendre jusqu'au trône et vous y asseoir ne fait pas de vous un monarque et il est possible de devenir roi d'Angleterre sans réellement, on peut dire sans réellement, vous asseoir sur cette vieille chaise. Ce n'est pas dit parce qu'on s'assoit sur cette vieille chaise qu'on va devenir roi d'Angleterre. Donc, si Jésus avait simplement voulu retourner auprès du Père, il aurait pu se contenter de disparaître. Il y a eu d'autres épisodes où il a instantanément, carrément disparu. Par exemple, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, au moment de l'ascension, il s'élève littéralement vers les nuages et s'évanouit carrément dans le ciel. Pourquoi partir de cette façon-là ? Oui, pourquoi ? Nous ne pouvons que formuler des hypothèses, mais c'est peut-être pour la même raison qu'il existe une cérémonie de couronnement, l'élévation dans l'espace. Cela symbolise l'élévation dans l'autorité et dans la relation avec les autres. Jésus montre physiquement ce qui se passe dans la sphère cosmique et spirituelle. Que s'y passe-t-il ? En tant qu'unique Dieu homme, pleinement humain et pleinement divin, il va prendre sa place de nouveau roi et de chef de l'humanité tout entière. C'est donc ici que la théologie chrétienne nous pousse aux limites de notre raisonnement et de notre imagination. Lorsque le Fils éternel de Dieu s'est incarné, il est devenu pleinement humain. En plus d'être vulnérable, exposé aux blessures et à la mort, il était soumis aux limitations du temps et de l'espace. Même après sa résurrection, il pouvait être touché et il pouvait manger normalement. Un esprit, nous le savons tous, n'a ni chair, ni eau, ni os, comme vous le voyez bien. Or il a dit, j'en ai moi. C'est ce qu'il a dit dans Saint Luc, chapitre 24, verset 39. Donc, il a montré qu'il a toujours une nature humaine. Pourtant, voyez-vous, il a changé. Il peut maintenant apparaître malgré les portes fermées. Notez Saint Jean, chapitre 20, verset 19. Et tout simplement, il peut aussi disparaître. Notez Saint Luc, chapitre 24, verset 31. Bien que toujours intact, sa nature humaine a subi une transformation. Nous avons ici une image de notre propre avenir. Comme l'écrit l'apôtre Paul, Jésus précède ceux qui sont morts. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Ceux qui croient en lui, je répète, ceux qui croient en lui, ressusciteront comme lui. Nous aurons un corps humain, mais nous aurons un corps restauré et amélioré, ramené à ce que nous étions avant que le péché et le mal ne nous écrasent. Ce corps ne sera pas soumis à la déchéance ni à la mort. Il disposera aussi, apparemment, de nombreux nouveaux pouvoirs et de nouveaux sens que nous ne pouvons même pas imaginer. Un autre changement se produit au moment de l'ascension. Aussi longtemps que l'homme Jésus a existé dans le monde spatio-temporel, il ne pouvait être que à un seul endroit à la fois, à un seul moment à la fois. Si vous vouliez l'entendre, entrer en contact avec lui ou de le connaître, alors vous deviez être à cet endroit-là, ainsi qu'à ce moment-là. Or, lors de l'ascension, il délaisse le continuum espace-temps et il entre dans la présence du Père. Il est toujours humain, il est toujours le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Il est toujours notre défenseur. Pourtant, désormais, voyons du fait de sa glorification, tout ce qu'il fait a une portée cosmique. Oui, carrément. Un hymne, donc un cantique, parle de blessures riches, pourtant visibles à la surface, glorifiées ainsi dans la beauté. Dans son ouvrage classique de doctrine, le fameux théologien Louis Berkhof, il dit qu'il est entré dans la plénitude de la gloire céleste, Jésus, et il était parfaitement adapté à la vie au ciel. Par conséquent, toute limite spatio-temporelle de son œuvre disparaît. Vous n'avez plus à vous rendre à un endroit précis pour bénéficier de son ministère. Il continue de faire tout ce qu'il faisait auparavant, mais depuis l'ascension, il le fait en ayant accès à tout le monde et à tout lieu en même temps. L'ascension, cela ne signifie pas la perte de limite ou la perte de l'intimité avec lui, de son leadership et de son rôle de défenseur. Non, non, non. Elle signifie l'amplification et la disponibilité infinie de tout cela. Chers amis, donc maintenant, Jésus continue de faire tout ce qu'il faisait auparavant, mais depuis l'ascension, il le fait en ayant accès à tout le monde et à tout lieu absolument en même temps. Pour parler comme les théologiens, Jésus est maintenant depuis le ciel activement engagé dans le prolongement de son œuvre de médiateur, et cela partout sur la planète. Il est toujours notre prophète, il est toujours celui qui nous enseigne et nous forme avec sa sainte parole, mais il le fait maintenant partout, par l'entremise de l'Esprit Saint. Il est toujours notre roi, mais il guide et il dirige maintenant son Église entière au moyen des dons spirituels qu'il accorde à son peuple, selon Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 16. Donc, les dons de leadership, de service, de grâce, d'enseignement, d'administration et de générosité. Il est toujours notre prêtre, il est toujours celui qui nous conseille et nous soutient. Mais il nous représente maintenant devant le Père. En Saint Matthieu chapitre 26, verset 64, aussi bien que en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33 à 36. Jésus est présenté comme étant désormais à la droite de Dieu. Dans l'Antiquité, celui qui s'asseyait à la droite du trône était en quelque sorte le premier ministre du roi, celui qui traduisait dans les faits son autorité et sa domination royale par le biais de politique et de loi. Et cela revient donc à dire que Jésus s'est élevé pour commencer son règne. L'assimilation de l'ascension a donc un couronnement, c'est un couronnement qui requiert toutefois quelques précisions. Voyez-vous, Jésus a toujours été roi. Il a toujours eu de l'autorité sur nous, puisque il est Dieu. Au moment de l'ascension, en tant que Dieu-homme ressuscité, il commence son œuvre de chef céleste de l'Église, c'est-à-dire de tous ceux qui sont nés de nouveau, de tout le corps de Christ. il règne désormais sans partage et il domine tous les autres dirigeants et toutes les autres puissances, en résumé tout pour l'Église. Selon Éphésiens, chapitre 1, versets 21 et 22, il, Jésus, exerce donc tout particulièrement ce règne grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint. Cette œuvre qu'il a exposée en détail à ses disciples la veille de sa mort. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 17. Cela signifie aussi qu'il règne sur toute l'histoire et qu'il la contrôle, qu'il l'amène vers son but ultime. Donc, l'Église et le nouveau peuple de Dieu seront alors pleinement libérés et en même temps sera le monde entier qui sera renouvelé selon Romains chapitre 8 verset 18 à 23. À ce moment-là, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mal ni de mort, car son œuvre de salut et de restauration sera enfin achevée. Autrement dit, Jésus dirige un plan de transition cosmique qui débouchera sur un nouveau ciel et une nouvelle terre, selon Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 25. En tant que Seigneur monté au ciel, il propage l'Évangile et construit son Église en agissant dans le cœur d'êtres humains, tout en menant tous les événements de l'histoire vers une fin glorieuse. Voilà donc ce que est l'ascension. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous concrètement? Quel impact cela a-t-il sur notre façon de vivre au quotidien? Nous ne pouvons pas tout dire ni tout explorer ici. Permettez-moi cependant d'examiner trois éléments importants. Premièrement, le Christ monté au ciel est un Jésus disponible pour une communication et une communion pleine d'amour, comme nous l'avons vu à l'étude numéro 5, lorsque Marie de Magdala a trouvé le Christ ressuscité près du tombeau vide, rappelez-vous. Elle s'est accrochée à lui. Revenons un peu à cet épisode, s'il vous plaît. D'après un certain nombre de traductions, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Certains présument que cette interdiction revient à celle de toucher le sacré. Le problème avec cette théorie, c'est que plus loin, dans le même chapitre, Jésus invite Thomas à le toucher. Que veut-il donc dire? Le verbe qu'il utilise est un mot qui veut dire en quelque sorte serrer fort. Donc Marie l'a agrippé de toutes ses forces. Elle pensait probablement avoir perdu à la mort de son maître la relation précieuse qu'elle entretenait avec lui. Et maintenant qu'il vit, elle ne veut surtout pas le perdre à nouveau. C'est donc là que se situe son erreur. Jésus lui signale qu'il n'est pas encore monté vers son Père. une fois qu'il sera monté au ciel, écoutez bien cela, Marie aura accès à une relation d'amour encore bien, bien plus forte. Pourquoi ? Parce qu'il ne la quittera littéralement plus jamais, et il ne sera pas seulement à certaines occasions dans ses bras, mais il sera toujours dans son cœur, dans les grandes lignes. Je crois qu'il lui dit ceci. Ma chère Marie, je peux comprendre pourquoi tu ne veux plus jamais perdre ton mentor et ton ami. Mais si tu comprenais vraiment ce qui se passe, tu te rendrais compte qu'une fois que je serai monté au ciel, tu m'auras moi, en tout temps et pour toujours. Dans l'état où je suis maintenant, ma chère Marie, tu risquerais de me perdre. Mais si je monte vers le Père, alors là, tu m'auras pour toujours. Si quelqu'un te met dans le donjon le plus profond et même le plus sombre, eh bien, je serai avec toi. Tu auras cette intimité-là et cette communion-là. Absolument rien, rien ne pourra plus jamais m'éloigner de toi. Quand Richard Wurmbrand a été enfermé dans les geôles de l'Union soviétique, il y a longtemps de cela, où il a été martyrisé, c'était le révérend Wurmbrand. Vous pouvez peut-être encore obtenir son témoignage dans les librairies bibliques. C'est peut-être possible. Eh bien, le révérend Wurmbrand, malgré qu'il a été traité d'une façon inhumaine, on lui a fait les choses les plus pires que j'ose même pas vous dire, tellement que c'est affreux. Et pourtant, jamais il a abandonné la foi en son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus, tu es monté aux cieux, dissimulé à nos regards, et nous nous sommes détournés, nous nous sommes attristés pour soudain te découvrir dans notre cœur maintenant. Jésus dit donc à Marie, tu peux là, ma chère Marie, avoir ma main, tu peux l'avoir pour toujours, car je peux te donner quelque chose d'encore beaucoup mieux que simplement ma main qui sera dans la tienne. Je peux mettre mon cœur, mon esprit dans le tien. Je suis donc conscient que cela peut paraître sentimental. Nous avons l'habitude de ce genre de langage dans les films et les chansons populaires. Donc, lorsque j'en fais usage ici, votre esprit classe naturellement ce que j'écris ou ce que je vous dis maintenant dans la catégorie de la fiction romantique. Or, ce que Jésus rend possible par son ascension, cela diffère totalement d'une scène de film. Il est le seul à avoir la capacité de tenir sa promesse d'être avec nous pour toujours. Et ce qu'il promet, cela dépasse de loin le bonheur romantique. La Sainte Bible nous enseigne que depuis le trône de l'univers, Jésus utilise son pouvoir pour élever nos affections vers lui. D'après Éphésiens chapitre 2 verset 6, puisque les chrétiens sont unis avec Christ, et cela d'une façon mystérieuse, ils ont déjà en quelque sorte, assis avec lui dans les lieux célestes. À tout le moins, cela signifie que par l'entremise de l'Esprit Saint, les attentes et les désirs les plus profonds de notre cœur peuvent être puissamment satisfaits en Christ. J'insiste sur le mot « puissamment ». Jonathan Edward, un éminent théologien pasteur du XVIIIe siècle, a laissé un récit personnel décrivant sa vie de prière et de méditation. Voici ce qu'il dit. Je me retirais très souvent dans un lieu solitaire sur les rives du fleuve Hudson, à une certaine distance de la ville. Je m'y adonnais à la contemplation des choses divines et je conversais en secret, en silence, avec Dieu. Et j'ai passé là-bas, de nombreuses heures sereines. Je prenais le plus grand plaisir et à d'autres occasions, je prenais le plus grand plaisir à lire les Saintes Écritures. Souvent, en les lisant, chaque mot semblait toucher mon cœur. J'ai ressenti une harmonie entre quelque chose dans mon cœur et ces mots à la fois doux et très puissants. Souvent, j'ai eu l'impression de voir tellement de lumière qui émane de chaque phrase et une nourriture tellement rafraîchissante qui m'était communiquée que je ne parvenais pas à continuer la lecture, m'attardant souvent longuement sur une phrase pour voir les merveilles qu'elle contenait. Et en fait, presque chaque phrase semblait remplie de merveilles. Voici donc le récit d'un des épisodes les plus marquants et des temps de ces temps-là de communion avec Christ. Jonathan Edward continue en disant ceci, qu'en 1737, un jour, tandis que je faisais une promenade de santé à cheval dans les bois, j'ai mis pied à terre et en un lieu retiré, comme j'en avais l'habitude, et j'ai marché, avide de contemplation divine et de prière. J'ai alors eu une vision qui m'est apparue extraordinaire de la gloire du Fils de Dieu, comme médiateur entre Dieu et les hommes, de sa grâce et de son amour magnifique, marqué par la reconnaissance pure et douce, et de sa bienveillance douce et délicate. Cette grâce, qui apparaissait si calme et si douce, apparaissait aussi immense, immense, au-delà des cieux. La personne du Christ m'apparaissait donc d'une excellence ineffable, une excellence assez vaste pour avaler toutes mes pensées et mes conceptions, lesquelles ont continué de surgir d'aussi près que je puisse en juger, et pendant presque tout ce temps, j'étais en larmes. Je souhaitais de toute l'ardeur de mon âme, à défaut de trouver une meilleure façon de l'exprimer, je souhaitais être vidé et anéanti, reposant dans la poussière et être plein de Jésus-Christ seul, de pouvoir l'aimer avec un amour saint et pur, lui faire confiance, vivre en accord avec lui, le servir et le suivre, et être parfaitement sanctifié et purifié, purifié d'une pureté divine et céleste. Et à plusieurs autres occasions, j'ai eu des visions de la même nature et elles ont eu le même effet sur moi. Oh oui, mes chers amis, peut-être vous dites-vous, eh bien, je suppose qu'il y a toujours eu quelques saints particuliers, des personnes spéciales pour qui Jésus est devenu aussi réel que cela. Mais pour moi, ça ne peut jamais exister à nouveau. Oh, l'apôtre Paul présente et comment l'amour du Christ qui est déversé dans notre cœur, dans ton cœur, à toi qui écoutes maintenant. Notez Romains chapitre 5, verset 5. Cela comme un signe distinctif pour les chrétiens. De plus, c'est parce que Jésus est à la droite de Dieu maintenant et qu'il intercède pour nous, pour toi, selon Romains chapitre 8, verset 34, que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour. Puisque Christ est monté au ciel, nous pouvons connaître sa présence qui nous parle réellement, qui nous enseigne réellement, qui déverse réellement son amour dans notre cœur. Tout cela par l'entremise de l'Esprit Saint. Sa présence n'est pas seulement réservée à un groupe fermé de saints en accord sur le plan mystique, sensible du point de vue émotionnel ou irréprochable du point de vue moral. Non, non, non. Jésus est monté au ciel, hors du système espace-temps, de façon à pouvoir entrer dans la vie de chacun, même toi qui es peut-être maintenant désespéré, ou toi qui es maintenant en prison. Il est là comme une réalité d'amour et un lien personnel plein de vie et d'éclat. Le Christ monté au ciel n'est pas seulement sublimement personnel, il est aussi suprêmement puissant. Il contrôle tout pour l'Église et par conséquent, nous pouvons affronter le monde le cœur apaisé. En Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 22, au sujet de Dieu, le Père est de Christ. Oui, donc Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Il est donc le second Saint des saints avec le Père et l'Esprit Saint. Il est dit, il a ressuscité, Dieu a ressuscité Jésus et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance et de toute souveraineté. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est le corps de Christ. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est que non seulement l'homme Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui est maintenant à la droite du trône divin, mais il est en tant que directeur exécutif de l'histoire, il est dirigeant tout au profit du corps de Christ, son Église. Si vous lui appartenez, chers amis, tout ce qui se produit en fin de compte pour vous. Le fameux catéchisme de Heidelberg a été conçu par les églises protestantes d'Allemagne au XVIIe siècle pour résumer l'enseignement biblique. D'après la réponse 46, Christ a été élevé de la terre jusqu'au ciel et il continue dans notre intérêt jusqu'à ce qu'il revienne pour juger les vivants et les morts. C'est le résumé de ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens au chapitre 1. L'ascension de Jésus n'était pas seulement un grand honneur pour lui, mais pour nous aussi. Il est donc monté au ciel afin d'intervenir pour nous, pour toi qui écoutes maintenant. Il se peut une fois que je me trompe pour une citation biblique. C'est évidemment pas bien et je m'en excuse profondément et sincèrement. Je ne veux pas donner l'excuse de mon grand âge ou à la fatigue. J'en ai pas le droit. Mais ça peut arriver parce que nous sommes que de simples humains. Donc vérifiez toujours les citations bibliques que je vous donne, s'il vous plaît. L'autre texte classique à ce sujet, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Il est dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dans ce verset, il importe de remarquer le verbe « contribuer ». On est loin des formules toutes faites présentes sur les cartes de vœux. Voyez-vous, l'apôtre Paul ne dit pas qu'à toute chose malheur est bon, ou qu'après la pluie viendra le beau temps, comme chantent les Allemands et les Suisses allemands. Non, il affirme l'apôtre que dans la perspective de l'éternité, en repensant à toute l'histoire, nous constaterons clairement que même les événements authentiquement mauvais ont été, on peut dire, intégrés et utilisés par Dieu, si bien qu'en fin de compte, leur impact aura été contraire à leur portée initiale. Nous verrons que les mauvaises choses ont fini par apporter plus de gloire et de bien que si elles ne s'étaient pas produites. Le cas des frères de Joseph en est, on peut dire, un exemple à petite échelle. Ils lui ont fait, ses frères, beaucoup, beaucoup de mal, à lui, ainsi qu'à d'autres. Mais il a fini par observer, « Vous aviez projeté de me faire beaucoup de mal. Or Dieu a changé le mal en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Un cas du même genre, c'est celui de Job. Au début du livre, Satan obtient la permission de Dieu pour l'attaquer. Au bout du compte, ce complot satanique débouche sur une partie de la Sainte Bible qui a aidé des millions de gens au fil des siècles, ainsi que moi-même, à rester fidèle à Dieu malgré la souffrance. Ce n'était pas vraiment le but visé par Satan, absolument pas. Il en ira toujours ainsi. L'exemple suprême de ce principe est le sort de Jésus lui-même. Jésus qui a été rejeté, il a été trahi, il a été torturé et il a été mis à mort. lorsque les forces des ténèbres se sont abattues sur lui pour le détruire, elles n'ont réussi qu'à se détruire elles-mêmes. Colossiens chapitre 2 verset 15. Dire que Jésus fait tout contribuer à notre bien, cela signifie que non seulement les mauvaises choses font partie de son plan, mais aussi les petites. Oui, chers amis, non seulement les mauvaises choses font partie de son plan, mais aussi les petites choses. L'homme qui est mort pour vous et qui porte encore dans ses mains les traces des clous, qui porte encore les signes de sa souffrance pour vous ainsi que pour moi, et qui commande tout, il est maintenant assis à la droite du Père. Arrivez-vous à vous détendre, chers amis, maintenant? Vous laissez-vous gagner par l'anxiété? Avez-vous l'impression que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, que vous devez jongler avec plusieurs choses à la fois? Eh bien, si tel est le cas, vous ne croyez pas à l'ascension ou vous ne l'utilisez pas comme une ressource qui peut et qui va vous aider. Enfin, Jésus-Christ, lui qui est monté au ciel, il vous garantit à vous que vous allez trouver le pardon, que vous allez être accepté, que vous allez recevoir l'approbation auprès de Dieu le Père. Donc, d'après le Nouveau Testament, son ascension signifie qu'il est notre et qu'il est votre grand prêtre, qu'il est celui qui nous représente devant le trône de la justice divine. Comme l'apôtre Paul le signale en termes juridiques, il dit que Jésus intercède pour nous. C'est ce qu'il a promis aux disciples de faire en tant que défenseur, et l'ascension lui permet de tenir sa promesse. Voici comment cette idée est exprimée dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 7, et dans 1er épître de Saint Jean chapitre 2. Il est dit que par conséquent, il peut aussi sauver Jésus, parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, lui qui est saint, qui est irréprochable, qui est sans souillure, qui est séparé des pécheurs et beaucoup plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli, vous l'avez compris maintenant, ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice à la croix. Notez Hébreux, chapitre 7, verset 25, jusqu'au verset 27. Ensuite, dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, où il est dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, que vous ne commettez plus de péché. Mais, si quelqu'un a péché tout de même, nous avons un défenseur auprès du Père, c'est Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, pour mes péchés comme pour les vôtres, et non seulement, mais aussi pour ceux du monde entier. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Ces métaphores, telles que prêtre, défenseur, intercesseur, cela pousse plus loin la mystérieuse mais extrêmement importante métaphore de Jésus qui est assis à la droite du Père. Celui qui est à la droite du trône a donc maintenant le pouvoir d'exécuter la volonté royale. Il a aussi, pour ainsi dire, l'oreille du roi. Donc, bien entendu, si une personne ou une affaire doit être jugée devant le trône, aucun défenseur n'est plus fort que celui qui est assis à la droite du Père, c'est Jésus-Christ. Rappelons-nous que devant un tribunal, tout repose sur notre avocat, oui, sur celui qui défend nos intérêts. S'il est brillant, nous aurons l'air brillant. Si ses arguments sont en béton, nous aurons gain de cause. S'il connaît la loi et est hautement respecté par la cour, eh bien l'affaire est dans le sac. Donc, lorsque la Sainte Bible dit que Jésus est notre défenseur, notre représentant devant le trône de l'univers, ça c'est une façon de dire qu'il ne s'est pas contenté de faire de la lévitation. Peu importe qui nous avons été ou ce que nous avons fait, peut-être des choses pas, et je plaisante, pas très catholiques, donc peu importe nos faiblesses et nos nombreuses bêtises, lorsque les yeux de Dieu le Père se portent sur nous, il voit Jésus monté au ciel. Lorsque ses oreilles nous écoutent, ils l'entendent, lui. Et lorsque Dieu nous regarde et nous écoute, il voit et il entend une beauté infinie. Le livre des Actes des Apôtres relate l'histoire d'Étienne, un chrétien, un saint, jugé à la suite d'accusations fabriquées de toutes pièces. Et tandis que on s'apprête à l'exécuter par lapidation, voici qu'il a une vision. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Actes, chapitre 7, verset 56. Oui, il voit Étienne qui est en train d'être lapidé, qui est en train de rendre l'âme, il voit Jésus, non pas assis simplement à la droite de son Père, mais il le voit maintenant debout en son nom. Il le voit agissant comme son défenseur. Et Étienne a le visage, est-il dit, pareil à celui d'un ange pendant tout ce temps-là. Actes, chapitre 6, verset 15. Oui, chers amis, peu importe qui nous avons été ou ce que nous avons fait, peu importe nos faiblesses et nos nombreuses bêtises, lorsque les yeux de Dieu le Père se portent sur nous, il voit Jésus monter au ciel, et lorsque ses oreilles nous écoutent, il entend lui, Jésus. Savez-vous pourquoi? Il a compris, Étienne a compris, particulièrement dans ses derniers instants de son existence, que celui qui est mort pour lui est aussi celui qui est monté au ciel et le représente maintenant devant le tribunal de l'univers. Il a réellement perçu à quel point c'est essentiel et à quel point qu'il n'a pas plus jamais à se préoccuper de ce que les autres disent de lui. Peu lui importe les verdicts des tribunaux terrestres, puisqu'il sait comment celui qui est au ciel le juge. C'est la seule personne qui compte maintenant et pour le seul verdict qui durera pour l'éternité. Ses puissants ennemis ont beau prétendre qu'il est impur, il se sait maintenant pur aux yeux de Dieu. Cet homme est si épanoui, pour utiliser une notion populaire dans le monde de la psychologie, qu'il peut pardonner même aux hommes qui sont sur le point de l'exécuter. Actes, chapitre 7, verset 60. Pourquoi cela? Parce qu'il a compris la signification de l'ascension. Et vous, chers amis, l'avez-vous compris? Si vous croyez en lui, en Jésus, il est toujours vivant pour intercéder en votre faveur. Avez-vous, chers amis, avec le Christ monté au ciel, le genre de communication et de communion qui est possible selon la Sainte Bible? Avez-vous la paix de l'esprit, qui procure la certitude que votre Sauveur commande tout, absolument tout, pour vous à la droite de son Père? Connaissez-vous la joie inaltérable et le regard sur vous-même qui viennent d'une bonne compréhension de l'intercession de Jésus-Christ qui est maintenant à la droite de Dieu? Jésus s'est donc assis à la droite du trône pour y être notre prophète, pour y être notre roi, pour y être notre prêtre. Il est notre ami, il est notre chef et notre intercesseur, et cela à l'échelle cosmique. Le connaissez-vous de cette façon-là? Si vous voulez vivre et mourir avec la même assurance que Étienne, eh bien nourrissez-vous de la doctrine de l'ascension. Amen. Chers amis, je voudrais, avant de prier, si c'est possible, j'ai reçu pour vous quelque chose par l'Esprit Saint que j'aimerais vous transmettre. Écoutez bien. Que les vérités du royaume de Dieu méritent toujours à vos yeux la peine que vous pourrez prendre ou même tous les sacrifices que vous pourrez faire à les scruter. Creusez à fond le Saint-Livre. Creusez même si cela devient pénible et vous fatigue. Au-dessus et au-dessous de ce que l'on voit sans se donner aucun mal, il s'agit de chercher le trésor caché de l'Esprit Saint. Ce n'est pas tant ce que vous direz et que ce que vous discernerez et saisirez intérieurement qui agira sur les autres. Mon esprit, l'Esprit Saint, donc, vous éclairera sur toutes ces réalités-là, comme il éclairera aussi tous ceux qui vous approcheront. Donc, ne fût-ce que à cause d'eux, creusez à fond le Saint-Livre de la vie. Et maintenant, prions ensemble. Apprends-nous, Seigneur, à ne plus chercher parmi les morts celui qui est vivant, et à nous approcher du tombeau vide de Jésus, que pour nous réjouir de son triomphe et pour rendre témoignage à sa bonté. Ô notre Sauveur, qui a donné ta vie pour tes brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient avec abondance. Seigneur, qui a été mort, mais qui est maintenant vivant au siècle des siècles, et qui tient les clés de l'enfer et de la mort, nous te rendons grâce de ce que tu t'es révélé à nous comme la résurrection et la vie. Nous te bénissons pour cette assurance que tu nous donnes, que si nous avons été faits une même plante avec toi par la conformité de la mort, nous le serons aussi par la conformité de ta résurrection, et que comme tu es ressuscité des morts à la gloire du Père, tu nous appelles aussi à marcher dans une vie nouvelle, rapprochés de Dieu par le sang de Christ, réconciliés avec lui par sa croix, pour ne faire qu'un seul corps, ressuscités ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment pourrions-nous comprendre ces privilèges magnifiques auxquels tu nous appelles, ô notre Dieu, si toi-même tu ne les expliques à nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit? Fais que nous soyons réellement morts au péché et vivons à la justice en Jésus-Christ notre Seigneur. Unis tous tes enfants dans un même sentiment de reconnaissance, d'adoration et d'amour. Glorifie-toi dans chacun de ceux qui nous appartiennent. Couvre-les de l'amour et de la justice de Jésus-Christ ressuscité, et que tous ensemble, nous puissions vivre éternellement avec lui à la louange de la gloire de ta grâce. Amen. Amen. Merci. Et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour vous. Soyez donc bénis. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série qui se terminera, et on en commencera une nouvelle série, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, mes très chers amis.